Bonjour et bienvenue sur Communautaire, la communauté des initiatives saines et éco-responsables. Je suis Pauline Ebel, entrepreneur à impact. Avec Communautaire, je vous propose de rencontrer ensemble des acteurs engagés pour la planète et pour la santé et de vous faire découvrir toutes les initiatives menées à titre entrepreneurial, individuel ou bénévole, visant à produire ou à consommer plus durablement. Belle écoute! Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Communautaire. Aujourd'hui, place à l'économie circulaire et j'ai la chance d'accueillir Gaëtane Lemarchand, experte de l'économie circulaire, consultante chez Circulaire, mais aussi pionnière au sein de la Fondation Hélène MacArthur. Bonjour Gaëtane, tu vas bien ?
Bonjour Pauline, très bien et toi ?
Bah, très très bien, merci. Alors on n'a pas encore commencé l'épisode que j'ai déjà 1000 questions à te poser. Déjà, je vais te laisser te présenter et peut-être aussi rappeler ce que c'est que l'économie circulaire.
Oui, bien sûr. Déjà, merci de m'inviter aujourd'hui sur ce podcast. Gaëtane, moi, en effet, je travaille chez Circulaire actuellement depuis un an et demi. Et peut-être pour parler un peu de mon parcours, moi, j'ai fait une école de commerce, j'ai fait l'EDEC. Et j'ai commencé pendant mes stages à l'EDEC, au début, je faisais des stages plutôt en finance, notamment en fonds d'investissement. Et c'est lors de ce stage en fonds d'investissement que j'ai commencé à me poser des questions sur le sens que je voulais donner à mon travail. Et j'ai découvert l'économie circulaire au cours de certaines recherches. Depuis, j'ai effectué un tour du monde des initiatives de l'économie circulaire. Le but, et on pourra en revenir, c'était de découvrir les innovations les plus prometteuses d'économie circulaire à travers le monde et de les mettre en avant et de sensibiliser à cette nouvelle économie. Depuis, j'ai travaillé avec la Fondation Hélène MacArthur sur des projets d'open innovation. J'ai travaillé notamment aussi au sein du Circular Economy Club, qui est un réseau international de villes et et d'acteurs qui veulent rendre nos villes circulaires. Et depuis maintenant un an et demi, donc je travaille chez Circulaire et j'accompagne des grands groupes dans la définition de leur stratégie économie circulaire et dans sa mise en place.
Top, un super parcours. Alors déjà, on pourrait peut-être rappeler ce que c'est que l'économie circulaire aussi pour que ça parle à tout le monde. Tu es l'experte, autant te laisser en parler.
Alors l'économie circulaire, on l'a définie un peu en opposition à notre économie actuelle, qu'on dit être linéaire, où on prélève des ressources, on les consomme et on les jette. Et l'idée de l'économie circulaire, c'est essayer de repenser toute notre façon de tout le cycle de vie des produits et des services qui nous entourent. Et d'essayer vraiment de minimiser les déchets que vont produire ces produits tout au long de leur cycle de vie et d'optimiser les ressources utilisées.
C'est un modèle qui est finalement inspiré de la nature où rien ne se perd, tout se transforme.
Exactement, exactement. On dit souvent qu'en économie circulaire, quand on veut s'initier à cette nouvelle économie et notamment à ce nouveau, nous on parle souvent de nouveaux modes de pensée finalement, c'est bien de s'inspirer de la nature puisque dans la nature, la notion de déchet n'existe pas. Si vous regardez dans une forêt, il y a absolument aucun déchet, tout est réutilisé. Et en fait, ça nous montre un peu que finalement, la notion de déchet, c'est une invention propre à l'homme. Il y en a qui disent même que finalement, le déchet, c'est une erreur de design, donc de conception. Je trouve ça assez vrai. Et finalement, c'est comment du coup, on repense la façon dont on produit et on conçoit nos produits, nos services qui nous entourent pour essayer de supprimer cette notion de déchet et d'imiter la nature.
Complètement. Et alors, tu parlais tout à l'heure des voyages que tu as pu effectuer, du tour de monde carrément. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus et nous dire, est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué en particulier et qu'est-ce que tu as découvert ?
Ça va être dur de le choisir. Mais c'était en 2017. Moi, j'ai décidé, du coup, en école de commerce, en fait, on a souvent une année de césure où on doit faire des stages. Moi, j'ai décidé d'en faire deux. Donc, cette année de césure qui était plutôt tournée vers des stages en finance et une année de césure qui avait plus de sens pour moi. Et quand j'ai découvert l'économie circulaire, l'objectif, c'était vraiment d'aller rencontrer des innovations et de voir un peu surtout ceux qui sont déjà dans cette nouvelle économie et qui ont trouvé des solutions finalement à nos enjeux climatiques. Quel challenge est-ce qu'ils ont rencontré pour aller vers cette économie circulaire ? Je suis partie avec deux amis, une amie de classe préparatoire et un ami d'école. On est partie pendant 10 mois dans 10 pays différents. On a rencontré plus de 100 entrepreneurs. Donc c'est pour ça qu'en choisir, ça, c'est compliqué.
Il y en a un qui t'a marqué peut-être plus particulièrement ? Ou celui qui t'a peut-être donné envie de passer le déclic, qui t'a donné envie de passer de la finance à l'économie circulaire et d'en faire ton activité principale ?
Alors voilà, le déclic, je l'avais eu quand même avant. Moi, particulièrement touchée quand je travaillais dans des fonds d'investissement, et c'est pour ça que l'économie circulaire, ça m'avait beaucoup plu, c'est que dans les fonds d'investissement, en fait, on parle énormément de valeurs économiques. Quand on regarde les entreprises dans lesquelles on souhaite investir, on parle de valeurs financières, mais on ne parle pas du tout du reste de la valeur qu'on peut créer et que peut créer une entreprise, et notamment tout l'aspect environnemental. Dans l'économie circulaire, ce que j'ai adoré, c'était justement le côté combo finalement d'une viabilité économique avec une viabilité environnementale, un respect de notre environnement. Et quand je sortais d'école de commerce, c'était un peu ça, moi, qui m'a beaucoup plu dans cette nouvelle économie. Et du coup, je fais un détour, mais pour répondre à ta question, Pauline, c'est que moi, les initiatives qui m'ont les plus plu pendant ce tour du monde-là, c'était des initiatives justement qui étaient... qui pouvaient passer à l'échelle, en fait, et qui pouvaient, du coup, apporter des solutions aux entreprises qu'on voit quotidiennement dans les journaux et qu'on connaît, et donc les grands groupes, finalement, qui nous entourent. Et il y en a une qui m'avait particulièrement plu en Suède, qui s'appelle Renewcell. Et en fait, Renewcell, je ne sais pas si tu sais, Pauline, mais l'industrie textile, c'est la deuxième industrie la plus polluante
Oui, on a fait quelques épisodes sur la mode responsable justement, et on évoque ces chiffres dramatiques de l'industrie textile en termes de pollution, d'eau, d'impact carbone, et tu fais bien de le rappeler parce que c'est quand même un sujet qui est important et qui est souvent minimisé.
Ah bah écoute, c'est génial si tu as eu des intervenants du coup sur ce sujet, mais en effet, c'est un gros challenge et qui est peu, alors maintenant de plus en plus, mais il y a quelques années, on en parlait très peu quand même. Et du coup, Renewcell, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils collectent tous les vieux jeans qui sont pour la plupart à base de coton. Et en fait, à partir d'un recyclage chimique, ils réussissent à créer une nouvelle matière, une nouvelle fibre à échelle pour pouvoir en fait ensuite le revendre à des producteurs de matières textiles et pouvoir faire des textiles qui sont à partir de 100% d'une matière finalement recyclée. Et ce que je trouvais assez chouette chez Renewcell, c'est que, en fait, en économie circulaire, quand j'ai voyagé, il y avait aussi beaucoup de petites initiatives qui étaient très locales, qui manquaient encore un peu de business model pour pouvoir vraiment passer à l'échelle et proposer une solution qui vraiment ait un vrai impact de par sa taille. Et Renewcell, c'était une des initiatives qui avait vraiment cette ambition de révolutionner l'industrie textile. Ils étaient notamment en train de travailler avec H&M. Qui a quand même des gros enjeux sur son modèle pour essayer de
devenir...
qui est largement pointé du doigt, exactement. Donc voilà, c'était une initiative que je trouvais assez, assez chouette.
Et dans ton tour du monde, tu as fait beaucoup de pays comme ça, très industrialisés, ou aussi des pays un peu plus sous-développés, et où tu t'es rendu compte que l'économie circulaire, que toutes ces innovations pouvaient être mises en place, pas forcément avec beaucoup de moyens, mais simplement avec juste une idée, une démarche.
Oui, en fait, notre objectif, c'était de commencer par des pays qui étaient moins industrialisés. Donc, on a fait l'Indonésie, l'Inde, la Chine, pour ensuite finir avec l'Amérique du Nord et l'Europe du Nord. Et c'était hyper intéressant, en fait, de le faire dans ce sens-là, parce que au tout début, typiquement en Indonésie, ce qui était assez, assez intéressant, c'est que, en fait, on en est vraiment encore à la base, disons, de l'économie circulaire. C'est vraiment à la collecte de déchets. La collecte de déchets, elle n'est pas du tout encore bien réalisée en Indonésie, dans certains endroits d'Indonésie. Alors que c'est la base pour pouvoir ensuite bien recycler et revaloriser nos matières. Et ce qui était intéressant, c'est qu'en Indonésie, on a rencontré notamment une entreprise qui s'appelle Eco Bali Recycling. Et on avait travaillé pour eux pendant 2 mois pour les aider justement dans leurs opérations, à développer notamment un site internet, etc. Et Eco Bali, en fait, eux, la majorité de leur travail, ça va être de la sensibilisation. De la sensibilisation, de la mise à disposition, bien sûr, de poubelles de tri, mais c'est vraiment de la sensibilisation aux gestes de tri. En Indonésie, pour raconter un peu une petite anecdote que je trouve assez intéressante sur finalement nos, nos, l'importance de la sensibilisation en économie circulaire. C'est que dans la plus, quand on est en Indonésie, quand on va aller chercher un déjeuner à emporter, il y a quelques années et encore maintenant dans certains petits restaurants, on entoure le repas d'une feuille de bananier, qui sont des grandes feuilles qui sont super pour avoir un côté hermétique à nos plats à emporter. Et en fait, maintenant, cette feuille de bananier, pour une grande majorité des restaurants, elle a été remplacée par une sorte de carton plastifié qui vient entourer les aliments. Et en fait, avant, les consommateurs avaient un geste de bah, finalement, la feuille de bananier, on peut la jeter dans la nature, elle va se dégrader, il n'y a aucun souci. Et en fait, quand cette feuille de bananier a été remplacée par ce carton plastifié, ils n'ont pas été sensibilisés sur que devient finalement ce carton quand on le jette dans la nature.
Donc le geste a été conservé finalement.
Exactement, le geste a été conservé. Et ce qu'il faut, c'est vraiment sensibiliser à que devient notre déchet en fait en fin de vie. Et ça, nous, dans nos pays plus occidentalisés, on a été sensibilisés au geste de tri, mais finalement, on ne sait même pas forcément qu'est-ce que devient notre déchet en fin de vie. Donc c'est la sensibilisation, et chez Circulaire, c'est un de nos gros axes d'action. C'est vraiment la clé et le point d'entrée pour aller vers une économie circulaire.
C'est vrai qu'on a plutôt tendance à dire ça c'est interdit ou ça il faut pas, mais en fait exactement. On sait pas trop pourquoi.
Exactement, c'est ça.
Et quand tu es allée dans ces pays-là, tu avais déjà un objectif auparavant, tu avais déjà identifié des entreprises ou des contacts, ou au final tu t'es dit tiens je passe un mois là-bas et je vais voir un peu comment ça se passe pour vivre localement et comprendre qu'est-ce qui se met en place ou qu'est-ce qui serait à améliorer.
Alors en fait, c'était un peu un mix des deux. On avait certaines initiatives qu'on voulait absolument voir dans certains pays. Typiquement, Ecobali, on s'était vraiment dit qu'on voulait travailler avec eux parce qu'on avait déjà eu pas mal d'échanges et qu'on trouvait ça intéressant de pouvoir voir justement les différents niveaux de sensibilisation à la collecte et au tri des déchets. Mais sinon, il y avait beaucoup de pays aussi, on arrivait, on avait identifié... deux ou trois semaines avant une initiative qu'on voulait rencontrer. Et en fait, après, ça marche énormément par réseau. Une fois qu'on rencontrait une initiative, on demandait quelles autres initiatives est-ce que vous connaissez. Ils nous faisaient en rencontrer, ou alors on allait à des événements en local sur la durabilité et on rencontrait d'autres projets. Donc, c'était vraiment du bouche à oreille parce que nous, en France, l'économie circulaire, notamment via la loi AGEC, donc la loi anti-gaspillage et économie circulaire, c'est maintenant un sujet qui est assez répandu. Mais dans beaucoup de pays, ce n'est pas encore du tout la priorité. Et donc, c'est parfois encore un petit groupe de convaincus qui se retrouvent régulièrement et qu'il faut réussir à atteindre pour pouvoir un peu dénicher les initiatives qu'ils peuvent mettre en place.
Tu dirais que ce voyage t'a clairement transformé ?
Ah oui, complètement. Complètement, ouais. Complètement. Alors là, c'est encore pour... on peut parler de l'Inde, on peut parler de l'Indonésie, mais quand vous retrouvez... à un moment, nous, on a visité une décharge à ciel ouvert. Vous retrouvez sur 45 hectares de décharge en plein cœur d'une ville avec des hauteurs de déchets qui vont de 15 à 20 mètres. Ouais. Franchement, c'est quelque chose... j'en ai encore des frissons, rien d'en parler. C'est quelque chose qui vous marque particulièrement et que... dans nos pays occidentalisés, en fait, on ne voit jamais vraiment nos déchets. On le voit que quand, et encore de façon très courte, quand on a une grève des éboueurs, comme à Marseille, comme ça avait pu être le cas il y a quelques années. Mais sinon, on ne voit jamais, en fait, la quantité de déchets qu'on produit. Donc, quand dans certains pays, vous le voyez, et vous êtes face à ça, en fait, après, c'est un point de non-retour, quoi. Vous ne pouvez plus l'ignorer et dans vos choix du quotidien, alors... ça a d'ailleurs été tout un challenge quand je suis rentrée de ce tour du monde. C'est qu'au début, il y a un grand temps de réadaptation qui peut être compliqué quand même quand on est dans nos sociétés occidentales où on a énormément de packaging un petit peu partout, que parfois, si on veut se faire plaisir, c'est vrai que c'est compliqué d'acheter tout en vrac. Donc il y a une réadaptation à faire. Mais oui, c'est sûr que ça m'a complètement transformé ce voyage-là.
Surtout que c'était 10 mois sans retour, en fait. C'était 10 mois plein.
Oui, sans retour. Et en fait, plus j'avance, plus je prends conscience aussi de la chance d'avoir pu faire ce voyage-là. Et c'est pour ça que pour moi, c'est hyper important d'en parler autour de moi, de faire des interventions pour sensibiliser les gens qui n'auront peut-être pas la chance de pouvoir prendre, bah, comme ça, 10 mois à aller rencontrer des projets. Donc, c'est un peu dans mon devoir, disons, je trouve, à la suite de ce beau voyage, vraiment d'en parler et de communiquer sur tout ce que j'ai pu voir.
Et alors, tu reviens de ce voyage, tu te réadaptes un petit peu, tu te remets en mode de vie local, français, et là, tu te dis, c'est terminé, il faut que je m'engage pour une économie plus circulaire au quotidien.
Oui, bah alors, en fait, moi, du coup, quand je suis rentrée de ce projet-là, j'avais ma dernière année de master à faire. Et les choix, il fallait les faire très, très tôt dans l'année. Donc, moi, j'avais directement choisi d'aller en Allemagne pour justement avoir des cours en sustainability. Donc, j'ai fait ma dernière année de master à Munich. Et en fait, tout de suite, je me disais être passif et écouter des cours, c'était très intéressant. Mais moi, j'avais vraiment envie d'être un peu dans l'action et justement de sensibiliser. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à m'impliquer au sein de la Fondation Ellen MacArthur. Ils avaient notamment un programme qui s'appelle From Linear to Circular et qui sélectionne des profils plutôt de jeunes du monde entier pour travailler sur des sujets d'open innovation auprès de plutôt de grandes entreprises et les aider finalement bénévolement à revoir leur business model et à identifier toutes les opportunités que l'économie circulaire pourrait représenter pour leur chaîne de valeur et leur business model. Et donc ça, c'était quelque chose que je faisais typiquement à côté de mes études en action bénévole pour sensibiliser. Et voilà, et avoir déjà un impact. Donc, j'allais travailler notamment sur une entreprise qui s'appelle Liz Earl, qui est une entreprise de cosmétiques en Angleterre. Et sinon, après, bah, voilà, c'était tous mes projets que je pouvais mener en dernière année de master étaient tournés vers l'économie circulaire. J'essayais vraiment d'en parler autour de moi, auprès de jeunes qui étaient en master avec moi. Donc ça, c'était une première étape de sensibilisation. Et ensuite, pour moi, c'était un peu... il fallait que je travaille en économie circulaire, quoi. Il n'y avait pas trop d'autres solutions.
Une évidence.
Ouais, une évidence. Et Circulaire, c'était une entreprise que je connaissais depuis quelques temps. J'avais rencontré notamment Jules et Raphaël, les deux fondateurs de Circulaire. Et en fait, voilà, on était restés... en contact, et quand ils ont voulu lancer leur branche conseil aux entreprises, ils ont toqué à ma porte et moi j'ai accepté avec plaisir. Et depuis, c'est vrai que je suis à la fois dans une branche vraiment conseil aux entreprises, étude de leur chaîne de valeur, quelles solutions est-ce qu'on peut mettre en place pour l'améliorer, et aussi réalisation de conférences pour inspirer et essayer de partager justement mon expérience du tour du monde.
Très bien. Alors, rappelle-nous l'objectif de Circulaire au global.
Circulaire, c'est une entreprise qui s'est créée il y a 5 ans par Jules et Raphaël, Jules Coignard et Raphaël Mavigné. L'objectif de Circulaire, c'est d'accompagner les organisations à vivre en harmonie avec la nature. Donc, quand on parle d'organisation, c'est vraiment que ce soit les entreprises, mais aussi les collectivités. Et l'idée, c'est vraiment de les accompagner à repenser la façon dont ils travaillent au quotidien. Donc, on a trois grands leviers d'action, disons. La première chose, et ça, je le disais tout à l'heure, c'est notre axe formation. Donc là, c'est vraiment l'idée, c'est de se dire que ceux qui travaillent au sein d'une organisation ne peuvent pas aller vers l'économie circulaire s'ils ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'ils devraient aller vers cette nouvelle économie. Donc, on a lancé une formation digitale qui s'appelle l'Odyssée circulaire, qui vise à former un grand nombre de collaborateurs aux bases de l'économie circulaire. On fait aussi beaucoup de conférences, on fait des ateliers pour essayer d'engager les collaborateurs à imaginer ce que pourrait être leur entreprise parfaitement circulaire dans 10 ans. Donc ça, c'est la partie formation. On a aussi une partie plus réseau d'acteurs de l'économie circulaire. Donc ça, c'est ce qu'on a appelé le club circulaire. Donc c'est une adhésion à l'année des organisations pour 4 rencontres à l'année. C'est des demi-journées. C'est un club qui est réalisé avec le ministère de la Transition. On a plus de 40 entreprises maintenant qui sont membres de ce club. On a aussi des territoires qui sont impliqués et à chaque réunion du club, on invite des startups innovantes de l'économie circulaire, à chaque fois différentes. Et l'objectif de ce club, c'est vraiment de dessiloter les industries et de leur donner un cadre où elles peuvent partager finalement leurs challenges pour aller vers une économie circulaire. Elles peuvent aussi partager des beaux projets qu'elles ont pu mettre en place. Et c'est vraiment un temps d'échange et d'acteurs engagés sur cette économie et d'inspiration.
Ouais, pour que tout le monde puisse avancer ensemble et s'inspirer des bonnes pratiques des uns et des autres.
Ouais, exactement. C'était vraiment un manque en fait qu'il y avait au sein des entreprises, c'est de se dire mais moi je suis la seule convaincue dans mon grand groupe qu'il faut aller vers cette économie circulaire. J'ai un peu besoin d'avoir un soutien à la fois moral et aussi vraiment avoir des idées. Donc c'est un peu l'objectif de ce club là. Et enfin la troisième branche de circulaire, donc c'est vraiment la branche conseil aux entreprises et aux territoires, où là on les accompagne alors selon leur niveau d'avancée et leurs objectifs en économie circulaire, mais on les accompagne vraiment à définir toute la stratégie économie circulaire et à la mettre en place. Donc on va analyser avec elles finalement toute leur chaîne de valeur, se dire tout au long de leur chaîne de valeur, quelles sont les grosses problématiques d'économie circulaire, quelles sont aussi les opportunités qu'on peut activer pour transformer leur business model. Et une fois qu'on a identifié tout ce plan d'action potentiel, c'est finalement comment on passe à l'action maintenant, comment on met en place ces opportunités et avec qui. Et donc là, chez Circulaire, on a un réseau de plus de 800 acteurs de l'économie circulaire à travers le monde. Et c'est en sourçant des acteurs au sein de ce réseau-là qu'on crée des ponts finalement entre des startups d'économie circulaire et des grands groupes et qu'on les aide à travailler ensemble pour de façon très humble changer le monde.
on est là pour ça dans cet épisode. Et donc du coup c'est une démarche qui va vraiment de A à Z, à la fois de l'audit jusqu'à la mise en place d'un plan d'action concret.
Exactement. Ouais, nous, notre objectif, c'est vraiment de pas les laisser avec simplement un plan d'action, mais de voir aussi l'impact.
Et le mesurer ensuite, et vous accompagner sur le long terme.
Ouais, exactement. Ouais. Enfin, à chaque fois, déjà, quand on lance des projets qu'on appelle projets pilotes, donc c'est une phase de test, finalement, d'une nouvelle solution d'économie circulaire. Donc ça, on les accompagne. Et après, on fait toujours un bilan 6 mois après, voire 1 an après, pour voir où ça en est, voir l'impact qu'on a pu générer à travers ce projet. Et nous, c'est vraiment important de pouvoir mesurer un peu l'impact de nos actions. Et maintenant aussi, il y a des entreprises qu'on a créé une offre qui permet d'accompagner les entreprises vraiment sur la durée. Donc, il y a des entreprises qu'on accompagne sur 1, 2, 3 ans sur tous leurs projets de transformation d'économie circulaire. Donc, c'est un peu aussi un abonnement à un conseil d'économie circulaire qu'elles peuvent contacter à tout moment quand elles en ont besoin. Et nous, en plus, ça nous permet d'avoir des relations fortes avec une entreprise, de très bien la connaître et de plus avoir besoin de refaire tout un audit de leur chef de valeur à chaque fois qu'on veut relancer un projet. On les connaît, donc c'est plus efficace. Et nous, on aime bien aussi privilégier des relations assez fortes avec les équipes avec lesquelles on travaille.
Surtout qu'en parlant d'économie circulaire, c'est pas simplement un sujet, une problématique un jour. Finalement, il y a énormément de sujets. J'imagine que c'est aussi une question de priorité pour les entreprises. Ils doivent certainement choisir une priorité qui est soit la plus impactante, soit la plus forte, soit la priorité du moment. Et ensuite, l'idée de l'abonnement, c'est de dire oui, il y a peut-être un sujet qui a été bougé en priorité, soit le plus facile, soit le plus gros. Et ensuite, on peut aller encore un peu plus loin et tous les jours un peu plus loin.
Oui, exactement. Exactement. En fait, quand nous, on identifie toutes les actions qu'ils peuvent mettre en place, après, on les aide à les prioriser parce que c'est impossible qu'ils mettent tout de front. Et il y a aussi un apprentissage. Quand on lance une première initiative, on apprend aussi les challenges qu'on peut rencontrer. Est-ce que finalement les équipes étaient assez mobilisées? Est-ce qu'il n'y a pas besoin en fait, de les sensibiliser avant de lancer plus de projets? Enfin, y a toute une réflexion qui se développe au fur et à mesure qu'on développe des projets avec eux. Et en fait, quand on identifie des initiatives à mettre en place, on développe avec eux une feuille de route, donc sur 3-5 ans, justement, où on a progressivement quelles sont les initiatives à mettre en place et chaque chose en son temps, finalement.
Et alors, je reviens sur la partie formation dont on parlait tout à l'heure. Mm-hmm. C'est une formation qui est accessible donc à des collaborateurs pour les sensibiliser sur les sujets, enjeux de l'économie circulaire. Mais comment ça se passe concrètement quand un collaborateur est formé sur ces sujets-là, mais que l'entreprise, la vision ou la stratégie de l'entreprise n'a pas opéré cette transition? Et donc, comment un collaborateur au sein d'entreprise peut être formé sur ce sujet-là si derrière, il n'y a pas une ambition globale de l'entreprise ou du groupe d'aller en ce sens?
Alors déjà, il y a un peu deux façons d'accéder à cette formation. Soit un individu peut y accéder de façon solitaire, disons, parce qu'il a des grandes convictions et qu'il a envie de monter en compétence sur ce sujet. Soit c'est vraiment l'entreprise qui nous demande de former ses collaborateurs. Dans le deuxième cas, souvent, elle a déjà des objectifs économie circulaire où elle veut aller vers cette nouvelle économie. Donc là-dessus, il y a moins de challenges. Après, si c'est un individu seul, c'est vrai que c'est là où c'est le plus compliqué. Nous, en fait, dans cette formation, donc c'est une formation complètement digitale et en ligne, mais il y a, à la fin de la formation, il y a une heure de discussion avec un membre de circulaire pour aider justement cette personne-là à mettre en place, à concrétiser finalement tout ce qu'elle a pu apprendre dans cette formation. Et là, justement, ça peut être un peu un échange sur... Si cette personne est seule contre tous, disons, comment est-ce qu'elle peut mettre en place, enfin, essayer d'initier l'économie circulaire, d'initier une démarche et une dynamique au sein de son entreprise. Je pense que là, encore une fois, ça passe essentiellement vers de la sensibilisation, de l'inspiration et vraiment un côté positif. Il y a un peu, moi je trouve qu'il y a toujours un peu deux tendances dans l'écologie. Il y a ceux qui ont besoin d'être secoués par le côté un peu dramatique finalement de notre changement climatique, où on parle de chiffres qui sont alarmants. J'illustre toujours ce mouvement par, vous savez, le film d'Al Gore, Une vérité qui dérange, qui est vraiment sur cette sensation d'urgence de nos actions. Et il y a un autre mouvement qui va plus être vers le côté on monte des solutions, on essaye de voir aussi le positif qu'on peut apporter. Et ça, c'est plus un peu le film Demain de Cyril Dion.
Ouais.
Et c'est vrai que chez Circulaire, on est plus dans cette deuxième approche où on essaye de plutôt d'inspirer, de montrer du positif, de montrer qu'il y a des actions qui sont possibles. Et je pense que objectivement, c'est ce qui marche en tout cas le mieux de ce que nous, on a testé, plus qu'un discours alarmant où certaines personnes vont être du coup réfractaires et on va avoir du mal à les engager si on part sur cette dynamique-là.
Oui, et puis c'est toujours plus inspirant de partager des initiatives, des choses qui marchent, de prouver aussi par l'exemple et d'inciter à l'action plutôt que de moraliser, parce que chacun fait aussi à son niveau ce qu'il peut et c'est pas toujours évident.
Donc, exactement.
Ouais, c'est beaucoup plus parlant. On peut être aussi, je pense qu'on ne peut pas faire cet épisode sans parler de la légende du colibri, pour citer Pierre Rabhi, qui racontait que donc un jour un feu de forêt faisait rage et que les animaux regardaient le désastre et qu'il y avait donc un colibri, donc un tout petit animal qui s'activait pour aller chercher de l'eau dans son bec et que c'est, je crois que c'est un tatou, qui lui dit mais c'est pas avec ces gouttes que le feu va s'éteindre et le colibri a répondu je sais mais je fais ma part.
Oui, exactement. C'est parfait que tu parles de ça, Pauline, parce que c'est justement l'introduction de notre formation à l'économie circulaire.
Ah bon.
Donc, c'est exactement ça. C'est chacun peut faire des petites actions à son échelle.
Ah, c'est top. Et alors, à l'origine de Circulaire, il y a aussi eu un tour du monde de 100 initiatives qui ont été mises en place. Donc, j'imagine qu'ils ont dû toucher à différents secteurs d'activité. Néanmoins, quand vous, Circulaire au global, intervient dans les entreprises pour répondre à des problématiques, à des enjeux, il y a bien des initiatives qui n'ont pas forcément été déjà anticipées au travers de ce tour du monde. Donc, il y a certainement des problématiques qui sont nouvelles chaque jour. Comment vous les appréhendez, en fait, ces problématiques nouvelles?
Alors, je dirais quand même qu'il y a les problématiques, elles sont souvent quand même similaires, dans le sens où les problématiques que rencontrent certaines entreprises autour de l'économie circulaire, ça va généralement tourner autour du packaging,
Il
y a des thèmes communs du sourcing durable, de comment on revalorise les matières en fin de chaîne, comment on va essayer de sensibiliser nos consommateurs à ce qu'ils ils utilisent nos produits plus durablement, comment est-ce qu'on peut les réparer, etc. Par contre, c'est plus que il va y avoir des challenges qui vont être différents, dans le sens où chaque chaîne de valeur est très différente, chaque entreprise a ses process bien particuliers. Donc là, nous, vraiment, c'est tout l'objectif d'une première phase quand on se lance dans un projet avec une entreprise, c'est de bien la connaître, de bien connaître ses process, de bien connaître l'entreprise, son ADN, qui prend les décisions au sein de l'entreprise, où est-ce qu'ils en sont en termes d'engagement autour de l'économie circulaire. Et on a des entreprises avec lesquelles on travaille, comme Decathlon, où ils sont déjà très engagés sur ces sujets. Et on sent vraiment une vraie dynamique des collaborateurs pour avancer sur ces thématiques. D'autres entreprises vont être vraiment au balbutiement de leur engagement en économie circulaire. Et il y a beaucoup de réfractaires dans l'entreprise et beaucoup de réactions de type « Ah non, non, mais ça on ne pourra pas, ça c'est impossible. » Et du coup, il y a vraiment un accompagnement des collaborateurs pour leur montrer que c'est possible et une bonne connaissance de leur process pour pouvoir bien adapter des solutions à leurs enjeux. Typiquement, on a travaillé plusieurs fois avec des grandes marques de luxe. Un de leurs gros enjeux, c'est tout ce qui va être image de marque et protection de la marque, notamment sur la revalorisation de certains produits. Ils ne veulent pas que le nom de leur marque de luxe ou certains de leurs produits se retrouvent dans des friperies ou dans des marchés de la seconde main sur lesquels ils n'ont pas la main et qui viendraient dégrader leur image. Ça, typiquement, c'est des challenges qui sont propres à un certain type d'industrie et qu'il faut que nous, on ait bien en tête.
Et puis, en plus, avec une culture du changement aussi pour opérer un changement des mentalités auprès des collaborateurs.
Oui, exactement. Et en fait, ce qu'on fait toujours en début de projet, c'est vraiment c'est une discussion complètement ouverte avec les collaborateurs, c'est de se dire, mais en fait, quels sont vos critères ou les points d'attention sur lesquels vous voulez qu'on voulait qu'on garde en tête pendant tout au long du projet. Encore une fois, ça peut être... Il y en a certaines qui vont avoir des objectifs d'économie circulaire et qui vont nous dire, par contre, nous, en termes de budget, on a des marges qui sont serrées, donc on ne peut pas dépenser des milliers des cents pour aller vers l'économie circulaire. Donc nous, on va aussi adapter les solutions en fonction de leurs exigences. D'autres, ça va être plutôt l'image de marque, c'est vraiment un point de vigilance... certaines entreprises, ça va être la volumétrie qu'une solution d'économie circulaire peut proposer, parce que c'est une grande marque, ils ont besoin de tout de suite avoir une solution qui puisse être quand même à l'échelle. C'est vraiment avoir un dialogue ouvert avec les entreprises qui vont nous permettre d'anticiper tous leurs challenges propres à une entreprise en particulier.
Et ton rôle à toi chez Circulaire ?
Moi, mon rôle chez Circulaire, c'est... j'ai commencé en tant que consultante. Maintenant, je suis managing consultante. Mon objectif, c'est... il est double. Il est à la fois accompagner le projet et mon client pour être sûr que... on atteigne bien ses objectifs, qu'il n'y ait pas de... Que lui, il ait pu s'exprimer sur vraiment ce qu'il a envie de mettre en place et ses attentes tout au long d'un projet. Et il y a aussi un côté plus interne au sein de Circulaire où là mon objectif c'est que l'équipe projet de Circulaire qui va travailler sur une mission avance, sait bien où on va, sait ce qu'il lui reste à faire, essaye de délivrer un rendu qui soit de qualité pour nos partenaires et aussi prenne plaisir finalement dans la mission. L'objectif c'est que tout se passe bien, que l'entente soit agréable au sein de l'équipe projet, au sein de Circulaire, mais aussi avec les partenaires. C'est un peu jouer sur ces deux tableaux qui est mon rôle aujourd'hui.
Et tu es aussi intervenante. Récemment a eu lieu le, le World Impact Summit, qui est le sommet international des solutions pour la planète, qui réunit les acteurs de la transition écologique et qui sont porteurs de solutions qui s'engagent pour une planète plus verte. Tu as notamment animé un atelier sur l'éco-conception. C'est quelque chose que tu fais dans le cadre de Circulaire ou que tu fais en plus ?
Alors ça, c'est dans le cadre de Circulaire. Donc en effet, j'interviens aussi auprès de dirigeants d'entreprise sur qu'est-ce que l'économie circulaire. Ça, c'est vraiment pour les engager au tout début de leur réflexion autour de ce sujet. Qu'est-ce que l'économie circulaire ? Quelles sont toutes les opportunités possibles de cette nouvelle économie ? Est-ce que ça peut impliquer pour leur business ? Et au World Impact Summit, en effet, je suis intervenue la semaine dernière sur la thématique précise de l'éco-conception, qui est en économie circulaire. Il y a plusieurs piliers qui ont été définis par l'ADEME, donc l'Agence française de développement. L'éco-conception, c'est une de ces thématiques. Et au World Impact Summit, alors c'était pas vraiment un atelier, c'était vraiment une intervention de 15 minutes, où l'idée, c'était vraiment de replacer ce qu'est l'éco-conception, d'indiquer finalement tout son potentiel. Donc l'éco-conception, c'est vraiment cette façon de repenser nos produits et nos services, de les concevoir de façon à ce qu'on émette le moins de déchets possible tout au long de leur cycle de vie et qu'ils consomment le moins de ressources possible. Donc pour nous, c'est un peu, en économie circulaire, c'est un peu vraiment le pilier de cette nouvelle économie. Donc j'étais ravie de pouvoir en parler devant 800 personnes au World Impact Summit. Et j'ai aussi pu partager des initiatives que j'ai pu rencontrer pendant mon tour du monde, notamment une qui a beaucoup plu, qui s'appelle Gérard Street. Gérard Street, c'est le premier casque audio modulaire au monde. Donc c'est pour ceux qui connaissent peut-être Fairphone, c'est une initiative similaire. Donc c'est un casque audio où en fait on peut le démonter en pièces détachées. Donc quand vous achetez un casque audio chez Gérard Street, si jamais vous avez un problème de fil, par exemple, votre fil commence à être usé, vous pouvez contacter Gérard Street. Eux, ils vous envoient un fil de rechange. Vous pouvez le remplacer très facilement sans aller voir un réparateur ou sans renvoyer votre casque. Et en fait, ce qui est hyper intéressant dans ce nouveau modèle, c'est que la modularité de ce casque, ça permet de revaloriser 85% des parties de ce casque audio. Donc, vous minimisez énormément l'impact de ce casque. Et maintenant, Gérard Street, moi, quand je les ai rencontrés, ils s'étaient lancés en 2016. Ça a été lancé par Tom et Dorus aux Pays-Bas. C'était deux personnes assez géniales, passionnées de musique et deux designers aussi. Et ils s'étaient lancés donc aux Pays-Bas. Maintenant, ils sont aussi en Angleterre. Ils sont aussi en France. Ils sont vendus par la plateforme Comment. Donc voilà, si vous cherchez des cadeaux de Noël assez responsables, je vous le recommande. Moi, mon copain, il l'utilise et il adore. Et c'est vraiment un casque qui dure très longtemps et qui évite vraiment l'obsolescence programmée.
Oui, clairement, parce que l'objectif de l'économie circulaire, on le rappelait au début, c'est d'éviter la production de déchets. Donc évidemment, plus on peut réparer, réutiliser et conserver son objet plutôt que de le jeter pour en reprendre à nouveau, mieux c'est.
Oui, exactement.
Et alors, tu dirais que c'est plus facile de convaincre aujourd'hui des nouvelles générations parce qu'ils sont inscrits dans des nouvelles habitudes de consommation et aussi peut-être parce que maintenant, l'économie circulaire fait partie d'un objectif national, d'un pilier du développement durable. Ou est-ce que finalement, il est plus facile d'aller convaincre des grandes entreprises, enfin peut-être pas plus facile, mais plus opportun d'aller convaincre des grandes entreprises parce que l'impact d'une entreprise est bien plus important que celui des simples individus qui vivent au quotidien et qui gèrent leurs déchets et leurs achats de manière individuelle.
Alors, c'est une grande question. Alors, ce qui est sûr, c'est que de convaincre une entreprise d'aller vers l'économie circulaire, ça aura forcément plus d'impact parce que si elle change la moindre ligne de production, le moindre packaging, c'est des impacts à très long terme et à grande échelle. Mais de toute façon, en fait, pour faire changer une entreprise, c'est bien les individus qui la composent qu'il faut convaincre. Donc moi, je reste convaincue quand même que, que comme l'image du colibri, chacun a à agir à sa façon et dans son entourage. Donc plus on peut convaincre d'individus, plus c'est des individus qui eux aussi ont un travail, qui travaillent dans peut-être une petite ou une grande entreprise ou dans une collectivité et qui va pouvoir agir à son niveau. Et après sur ta question des générations à convaincre, c'est assez marrant parce que en effet je pense que notre génération, moi j'ai 26 ans donc je peux parler de notre génération et des générations à plus jeunes que moi. Je pense qu'on est naturellement plus sensibilisé à ces sujets environnementaux. Je pense notamment à toutes les tendances d'acheter des vêtements de seconde main, par exemple. Je vois que c'est très propre à nos générations. Mais ce qui est marrant, c'est que, par exemple, sur tout ce qui est tri des déchets, les personnes plus âgées vont être beaucoup plus rigoureuses sur ce tri. Alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais il y a des études qui ont montré que finalement, c'est ceux d'un âge plus avancé qui vont être plus rigoureux et donc finalement avoir un impact sur le tri de nos déchets qui est plus important. Donc je pense vraiment que chaque génération a aussi son rôle à jouer. Je pense que les jeunes générations, c'est plus de montrer les nouveaux modes de consommation. C'est des choses bêtes, hein, mais moi je sais que pour avoir un peu côtoyé ma grand-mère récemment, c'était... lui montrer que finalement il y a que ces cotons jetables, en fait on peut les réutiliser en ayant des cotons qui soient en coton réutilisable et lavable. C'est quelque chose auquel elle avait jamais pensé, quoi, et finalement en nous voyant faire, c'est des générations qui vont pouvoir elles aussi être inspirées. Et moi quand je vois sa rigueur, quand maintenant ils ont mis un compost dans sa résidence, et quand je vois à quel point elle est hyper rigoureuse dans le tri de ses déchets, je me dis là aussi c'est une bonne source d'inspiration pour les plus jeunes générations qui auront peut-être tendance à davantage bouger et donc à avoir du mal à se régulariser sur ces actes de tri.
Du coup, ouais, deux générations qui sont complémentaires. Celle qui était plus ancrée dans la grande consommation, l'ère du packaging et la consommation plus de masse, mais du coup qui va bien trier les déchets. Et puis une nouvelle génération qui, du coup, est plus orientée vers l'éco-conception, la seconde main et la réutilisation, le réemploi, quoi.
Exactement.
Et concernant l'éco-conception, donc, qui consiste à concevoir des produits à partir de matières recyclées ou en tout cas d'avoir une production beaucoup plus responsable, quel est le rôle entre les consommateurs, les distributeurs ou les fabricants sur ce sujet-là ? Est-ce que tu penses que c'est aux consommateurs de faire des choix beaucoup plus réfléchis sur la manière de consommer ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est à ceux qui sortent, qui fabriquent les produits, qui doivent intégrer ça dans leur chaîne de production, puisque après on peut pas laisser forcément le consommateur face à ses propres choix, puisque dans un rayon aussi on peut pas non plus le blâmer en disant il achète ce qu'il peut trouver sur le marché, et c'est peut-être plus contraignant aussi de faire ces choix-là, parce qu'aujourd'hui on ne trouve pas tout. Quelle est ta vision à toi sur ce sujet-là?
Ouais, alors là encore une fois tu as trouvé que j'ai un avis très modéré, Pauline, mais pour moi chacun a son rôle. En fait les grands groupes, objectivement nous on travaille temps avec eux, mais leurs indicateurs, c'est les études marketing, donc c'est les souhaits des consommateurs, parce que pour eux, c'est des parts de marché à gagner, etc. Donc, pour moi, ceux qui sont pionniers et qui ont des modes de consommation où peut-être ce ne sera pas les modes de consommation les plus simples, typiquement ceux qui, au début, se sont initiés au vrac, au début, il n'y avait pas une offre de vrac partout et de façon... très 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 simple. Il fallait ramener tous ces bocaux, il fallait potentiellement faire plus de trajets pour aller chercher ces produits en vrac, mais c'est des personnes comme ça qui sont extrêmement convaincues et qui vont plus être dans des extrêmes entre guillemets, mais qui vont être pionniers dans leur démarche, qui vont justement initier des nouveaux modes de consommation qui vont être regardés par les marques et qui vont ensuite inciter les marques à justement changer eux aussi leur offre. Donc après, je pense que il y a les entreprises, elles vont elles aussi selon la sensibilité des dirigeants des entreprises. Il y en a qui vont donner un tournant vraiment à leur façon de produire. Il y a une entreprise comme Interface qui est un leader des revêtements de sol qui eux sont absolument géniaux en économie circulaire. Et typiquement cette transition, elle a été faite à la fois parce qu'ils savaient qu'il y avait une vraie demande des clients, plutôt B2B du coup dans leur cas, d'avoir des produits qui soient plus durables, mais aussi parce que le dirigeant était un convaincu qu'il fallait aller dans cette direction-là. Et du coup, tout de suite, une fois qu'on a l'aval des dirigeants, c'est des budgets qui sont débloqués pour transformer toute cette chaîne de valeur. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment, il y a une action à faire des deux côtés. Et on peut ni blâmer complètement les entreprises parce qu'elles, elles restent encore sur une logique d'économie de marché, ni blâmer totalement les citoyens qui, bah voilà, en fonction aussi de leurs revenus, de là où ils sont, là où ils habitent, peuvent pas forcément avoir des styles de consommation qui vont être parfaits et idéalistes.
Oui, complètement. Donc, effectivement, chacun a son rôle à jouer. Et tu citais tout à l'heure Interface, c'est un domaine qui me parle parce que je travaille dans l'univers des revêtements de sol auparavant. Et effectivement, pour leur gamme de moquettes, pour produire cet effet de poisson, ils sont inspirés du gecko, qui est un petit lézard, du coup, qui produit ça de manière naturelle. Et ça fait écho à ce qu'on disait en introduction de l'épisode, c'est que l'économie circulaire s'inspire vraiment de ce que fait la nature et qu'il y a énormément d'initiatives qui sont créées juste en regardant la nature, en regardant ce qui se fait et qu'on peut vraiment injecter ensuite dans les modes de production.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Et pour revenir aux consommateurs, moi, je sais que quand, là, je te disais tout à l'heure, quand je suis revenue de mon tour du monde, j'avais un peu un besoin de me réadapter. Et je me souviens que j'étais aussi un peu dans ces extrêmes. En fait, quand je suis revenue de mon tour du monde, c'était vraiment, je voulais rien acheter qui soit sous packaging. Il y avait un côté un peu trop extrême où du coup, c'était difficile de me faire plaisir, en fait. C'est bête, hein, mais quand on veut acheter des gâteaux, quand on veut s'acheter des choses qui, voilà, qui sont plus plaisir, parfois, bah, c'est pas évident d'acheter vraiment du 100% vrac, de pas s'acheter une seule fringue, il y a un équilibre à trouver pour à la fois rester aligné avec ses convictions et ses valeurs environnementales et aussi pouvoir, bah, quand même se faire plaisir de temps en temps, parce que, même si on n'est pas dans une consommation absolument parfaite et à zéro impact, si on a ces gestes du quotidien qui sont quand même plus tournés vers de nouveaux modes de consommation, on influe les marques on influence les marques et donc voilà, on va dans une économie qui est meilleure.
Du coup, c'est une excellente transition pour la prochaine question qui était de savoir en fait comment toi, tu mettais en place des gestes green au quotidien. Alors peut-être aujourd'hui, peut-être pas quand tu es revenu autour du monde parce qu'effectivement, tu avais un autre éclairage et du coup, une manière, un rapport aux déchets, à la consommation qui était peut-être un peu plus extrême comme tu le dis. Mais aujourd'hui, pour t'insérer aussi dans un mode de fonctionnement qui est actuel, qu'est-ce que tu as pu mettre en place et qu'est-ce que tu aimerais nous partager ?
La première chose qui est quand même celle qui a le plus d'impact que je fais dans mon quotidien, c'est de ne pas prendre l'avion. Ça, c'est vraiment si vous faites tu sais, quand tu fais tes analyses, tes bilans carbone, là maintenant, tu as pas mal de choses sur Internet que tu peux faire. Tu prends une fois l'avion, t'as beau faire tous les efforts du monde sur ta consommation au quotidien. C'est vrai que ton impact environnemental est directement très impacté par un vol. Donc typiquement les choses que je pouvais faire avant, de se dire avec des amis, bah allez, on va pour 3 jours à Barcelone et bien sûr on y va en avion, bah non, là c'est des vrais voyages qui vont durer 3 semaines où là on s'autorise à partir un peu plus loin, et encore ça fait très longtemps du coup que j'ai pas fait ça. Soit sinon c'est en train, et en fait le voyage devient nos vacances aussi à part entière. Ça fait plusieurs étés de suite que je fais des voyages à vélo, par exemple. Donc, des voyages plutôt itinérants. Et c'est génial. C'est un nouveau mode de déplacement. Et c'est super. Donc, j'invite la plupart des gens à essayer aussi ce nouveau mode de voyage.
Oui, plus simplement l'envisager comme une destination. Et plutôt, le trajet en lui-même devient aussi une invitation à la découverte.
Oui, exactement. Exactement. Et ensuite, après, alors moi, j'ai été pas mal sensibilisée à tout ce qui est industrie textile, parce que c'était quelque chose, en fait, que je connaissais moins avant mon tour du monde, sur tout l'impact du textile. Maintenant, on en parle de plus en plus, donc c'est assez génial. Mais moi, typiquement, j'achète que tous mes textiles de seconde main. Si vous allez, alors je pense que maintenant, beaucoup de gens la connaissent, mais cette plateforme qui est Vinted, moi, je suis à chaque fois ahurie de tout ce qu'on peut trouver sur Vinted. De vêtements qui sont en fait quasiment neufs, mais simplement on en a dans telle quantité que franchement on peut trouver tout son bonheur. Ou sinon, si vous avez besoin d'aller les essayer, aller chez des Emmaüs à Paris, il y en a quand même plein. Et franchement, il faut apprendre à dénicher des bonnes affaires. Mais moi, je trouve qu'il y a un côté aussi assez jouissif dans le fait de, voilà, de creuser, de ne pas avoir le vêtement qu'a tout le monde au quotidien, mais d'essayer de trouver un peu le vêtement unique qu'on a déniché au fin fond d'un Emmaüs de Paris.
Puis l'acte aussi de redonner une seconde vie à ses vêtements aussi, de dire en fait ils peuvent peut-être servir à quelqu'un même s'ils ne me plaisent plus.
Oui, exactement. Et puis surtout, c'est que je trouve qu'au quotidien, moi je trouve ça assez génial quand ça nous arrive souvent d'une amie qui dit « Ah, j'aime bien ton pull, j'aime bien ton manteau, tu l'as trouvé où ?» Bah, je lui dis « J'ai trouvé sur Vinted ou je l'ai trouvé chez Emmaüs. » Et ça, c'est un moyen de sensibilisation aussi en fait au quotidien, donc je trouve ça assez chouette. Et sinon, après, acheter avec le moins de packaging possible, essayer dans sa routine beauté de se dire comment est-ce que je peux avoir le moins de déchets possible, essayer d'utiliser des produits locaux. Par exemple, je sais que dans les cosmétiques, moi au début, quand j'ai voulu essayer de consommer en vrac ou de faire mes cosmétiques moi-même, en fait, ce qui me frappait, c'est que on parlait beaucoup de consommation responsable quand on faisait ses cosmétiques soi-même, mais on regardait absolument pas d'où ils venaient. Et souvent, c'est du karité qui vient de l'autre bout de la planète. Donc là aussi, c'est se dire, mais qu'est-ce qu'on a comme huile, comme produit, en fait, qui sont en France et qui sont juste absolument géniales et qu'on peut utiliser aussi pour nos soins de beauté.
Oui, et puis c'est pareil, si on les met dans des flacons produits en plastique qui ne sont pas recyclables et qui viennent de l'autre bout du monde, bon.
Oui, exactement, exactement. Donc là-dessus, je pense que parfois, il n'y a pas encore de solution miracle. Hein. Franchement, arriver à du zéro waste et avoir une vie avec des enfants, avec une vie assez active, franchement, moi, je tire un chapeau à ceux qui y arrivent. Et il n'y a pas forcément de solution miracle, mais c'est un peu essayer d'avoir aussi de vraiment penser à la globalité de ce qu'on consomme, c'est-à-dire et le packaging et le produit en elle-même, en lui-même, les composants, d'où ils viennent, comment ils ont été fabriqués. Donc voilà, je pense que c'est un peu ce que j'essaie de mettre en place. Donc à la fois sur plus l'alimentation, le textile, la cosmétique et les voyages.
Une vision très, très complémentaire en tout cas et des gestes concrets. Quelles sont aujourd'hui tes sources d'inspiration ?
C'est très, très vaste. Je dirais que c'est plus c'est plus les gens autour de moi que je côtoie qui m'inspirent pas mal. Et chez Circulaire, on est quand même moi je trouve qu'il y a des très belles personnes et on s'inspire un peu mutuellement par nos engagements. Alors ça va être des engagements à la fois du quotidien, typiquement même si il pleut, même si il fait pas beau, on prend le vélo et on évite les transports. C'est pareil, c'est se partager des nouvelles idées de voyage un peu alternatifs. C'est se dire qu'en fait, au lieu de dépenser par des biens du quotidien, enfin des biens matériels, quelles expériences est-ce qu'on peut mener et comment est-ce qu'on peut dépenser notre argent un peu différemment. Chez Circulaire, il y a notamment Mathieu Vidvoet qui est celui qui gère le club chez Circulaire qui s'il m'entendra sur ses podcasts, qui m'inspire beaucoup. Il réalise pas mal d'exploits sportifs. Il a notamment traversé le lac Titicaca à la nage, il a descendu la Seine aussi à la nage et son objectif en fait à travers ses défis sportifs, c'est aussi de sensibiliser aux questions environnementales, parce qu'il est dans des univers qui sont totalement naturels et que typiquement, ces défis sportifs à la nage ne pourraient pas être faits si on ne respecte pas nos écosystèmes et que l'eau n'est pas d'une qualité suffisante pour pouvoir nager. Donc typiquement, une personne comme Mathieu m'inspire beaucoup. C'est vrai que dans mon quotidien, vu que je travaille déjà dans l'écologie, je dirais que j'ai moins besoin d'inspiration, alors que ça pouvait être le cas quand je ne travaillais pas encore en économie circulaire. Et là, du coup, mes sources d'inspiration, c'est plus sur du développement personnel ou plus sur du sport. Moi, je me suis récemment initiée au triathlon ou au trail. Et c'est des nouvelles activités sur lesquels je cherche des inspirations au quotidien. Récemment, j'ai découvert un livre qui s'appelle « Eat and Run » de Scott Jurek, qui est un Américain qui nous explique dans son livre comment il est passé d'une personne qui courait vraiment de temps en temps, ce qu'on peut apparenter au coureur du dimanche, disons, à un ultra-trailer qui va dans différents pays pour faire des ultra-trails hyper impressionnants. Donc voilà, c'est plus un peu mes inspirations du moment.
Un canon. On mettra tout ça dans les notes de l'épisode. Et ça me fait penser à ce livre Miracle Morning. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion aussi.
Alors, on en a beaucoup parlé. Je ne l'ai pas encore lu. Toi, tu as pu le découvrir?
Oui, carrément. Alors, du coup, je vais prendre quelques minutes pour t'en parler. Mais effectivement, c'est l'histoire d'un étudiant qui vient de finir ses études. Il a obtenu son diplôme. Il part faire la fête. Il est en voiture avec sa copine. Et là, bim, un gros accident de voiture. Et il reste assez longtemps dans le inconscient avant que les secours arrivent. Et quand les secours arrivent, son corps est vraiment un peu dans tous les sens. Et les secours lui disent, je crois que vous ne remarcherez jamais. C'est clairement quelqu'un qui a pris sur lui, qui a développé aussi toute une méthode de développement personnel, mais de conviction forte, et qui a mis en place un process, une routine. On consiste finalement à se convaincre qu'on peut faire les choses et à mettre en place au quotidien tout ce qui va permettre d'atteindre ses objectifs. Et donc, il dit que tous les matins, il va faire des affirmations, visualiser son projet, faire du sport, respirer, méditer, et etc. Et du coup, au final, il a mis en place ça au quotidien, et à la fin, alors qu'on lui avait dit que il ne marcherait jamais, c'est quand même quelqu'un qui a mené, je crois que c'est un ultra-marathon ou un ultra-trail, enfin bref. Et en fait, du coup, à la fois, il explique toute sa démarche, donc j'ai un peu spoilé la fin de la lecture, mais en fait, c'est pas tant l'objectif final, c'est juste de dire comment il a réussi à le mettre en place. Et aujourd'hui, c'est un conférencier qui donne des conférences dans le monde entier, et c'est vrai que du coup, sa technique, elle fait du bien, et je pense qu'elle peut être vraiment inspirante, et ça peut être aussi compléter tes lectures pour savoir comment
mettre
tout ça, et même quand on n'a pas beaucoup de temps, c'est ça qui est intéressant. Ouais.
Bah écoute, il faut absolument que je lise ce bouquin. J'en ai encore sur ma pile de lecture, mais ouais, il est assez génial. Là, je lis L'art de la victoire de Phil Knight, c'est le fondateur de Nike.
Et aussi,
hyper inspirant, qui parle justement de son engagement pour l'athlétisme et qu'en fait, c'était un athlète dès ses premiers jours, quoi. Et sauf qu'il n'a pas réussi à complètement percer dans le domaine de l'athlétisme professionnel. Et du coup, je trouve ça assez chouette de se dire qu'en fait, Nike, c'est un peu sa revanche, finalement. C'est comment il a pu s'introduire dans ce monde de l'athlétisme, et par un biais différent que l'athlétisme professionnel.
Donc, ouais, carrément.
Il est super.
Et toi, comment tu fédères ton entourage autour de tes convictions? Parce que tout le monde autour de toi n'était peut-être pas convaincu de tout ça, au-delà de ta sphère professionnelle.
Bah justement, ça c'est quelque chose que au début je tâtonnais un peu là-dessus quand j'étais revenue de mon tour du monde, parce que au début j'avais tendance à envoyer des articles, envoyer des vidéos et à ma famille, à mes proches que je trouvais assez ludique et assez adapté. En fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était pas forcément ça qui marchait. C'était plus justement parler de mon expérience, parler de mon quotidien. Je me souviens, quand j'étais à Munich, typiquement, mon dentifrice, c'était un dentifrice, c'est vraiment une petite anecdote, mais c'était un dentifrice en poudre. Je voulais essayer finalement tout ce qui est la cosmétique, ce qu'on appelle waterless beauty, donc sans eau.
Solide.
Et je me souviens, j'ai des amis qui étaient venus pendant quelques jours me rendre visite à Munich. Et en fait, en voyant typiquement mes cotons démaquillants lavables, mon dentifrice solide, en fait, c'est des choses qui les marquent beaucoup plus et qui, finalement, leur font prendre conscience qu'il y a d'autres façons de faire. Et que... Donc, finalement, c'est plus en montrant l'exemple et en partageant un peu mes différentes expériences de voyage, en leur expliquant tout ce que j'ai pu vivre à travers typiquement ce voyage à vélo autour de la France, ce voyage à vélo en Europe de l'Est, par rapport à si simplement, par exemple, le voyage à vélo en Europe de l'Est, on est allé jusqu'à Budapest avec des amis. Typiquement, ça n'a rien à voir avec si j'avais pris l'avion pour aller à Budapest et passer quelques jours. Quand vous arrivez après deux semaines de vélo et que vous arrivez enfin à destination, vous appréciez la ville de façon totalement différente. Donc, c'est vraiment plus en partageant mes expériences et mes ressentis que j'arrive à sensibiliser. Et ça, c'est aussi ce que j'essaie de mettre en place dans mes conférences, c'est vraiment essayer de faire jouer les émotions plus que le côté... Alors bien sûr, au bout d'un moment, il faut des chiffres, il faut des faits marquants, mais ce qui marche quand même le plus sur ces sujets-là, c'est vraiment le côté émotionnel.
Oui, et puis au quotidien, j'imagine que c'est beaucoup plus facile de s'inspirer d'une action concrète, d'un geste ou d'un produit, plutôt que d'aller faire un peu soi-même son enquête sur qu'est-ce qu'on pourrait consommer. C'est toujours plus rassurant d'avoir quelqu'un qui a fait déjà ce test et puis d'aller, on va dire concrètement, acheter la même chose. Parce que c'est pas toujours évident non plus de faire la démarche, de prendre du temps, de se renseigner et de s'assurer de faire le bon choix, alors que quand on a effectivement quelqu'un qu'on connaît bien qui a acheté un dentifrice solide, un shampoing solide ou autre, c'est toujours plus rassurant.
Oui, exactement. Exactement. Et typiquement, en plus là, on arrive sur la période des fêtes, c'est aussi un bon moyen pour commencer à sensibiliser. C'est au lieu d'offrir un cadeau un peu plus standard, c'est soit offrir quelque chose de seconde main en expliquant un peu la démarche avec un petit mot, soit offrir... un kit de consommation un peu plus durable. Moi, à un moment, j'avais fait, je reviens encore au coton lavable, mais je trouve que c'est une bonne porte d'entrée. J'avais fait des cotons lavables pour toutes mes cousines et j'avais offert ça en petit cadeau à un Noël. Typiquement, elle m'en parle encore et elle l'utilise et je trouve ça assez, assez chouette, quoi. Donc, voilà, des petits gestes du quotidien.
Ouais, c'est top. Du coup, je crois qu'il est temps qu'on passe au quiz. Et en plus, tu vas voir que tu as déjà partiellement répondu à certaines questions. Alors, je suis en train d'en changer au fur et à mesure. Parce que sinon, c'est pas drôle, tu as déjà répondu. L'objectif du quiz, c'est que je te donne une série de questions avec un choix A ou un choix B. Et que tu puisses répondre le plus spontanément possible, soit par la réponse A, soit pour la réponse B. Et l'idée, c'est que tu nous partages un petit peu ta manière de vivre au quotidien. Et que tu nous en dises un peu plus sur tes gestes green.
Okay.
Allez, c'est parti, t'es prête ?
C'est parti.
Pour te rendre au travail, voiture ou vélo ?
Vélo.
Je crois que tu viens de donner quelques indices déjà dans, dans l'épisode. Pour acheter tes cadeaux de Noël, Amazon ou Emmaüs ?
Emmaüs.
Si tu n'as rien dans ton frigo, McDo ou Too Good To Go ?
Too Good To Go.
Le lundi, t'es plutôt steak frites ou Veggie Monday ?
Veggie Monday.
Pour dormir, Netflix ou un bon bouquin ?
Ça dépend des fois, mais bon, plutôt bon bouquin en ce moment. Mais parfois, quand on a une grosse journée, Netflix peut aussi faire du bien, malgré l'impact.
Top, c'est canon. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Gaëtane, pour avoir partagé tous ces gestes du quotidien, et puis surtout tes expériences aussi, et puis tes convictions profondes sur l'économie circulaire et en quoi on peut changer tous, à notre niveau, nos habitudes. Merci beaucoup pour ta spontanéité et tout ton partage des convictions.
Ben, merci à toi, Pauline. Merci de m'avoir invitée. À bientôt.
Je t'en prie, à bientôt, bye bye.
Au revoir.
Votre épisode communautaire est maintenant terminé. Merci à tous pour votre écoute, j'espère que l'épisode vous a plu. Je vous invite à noter ce podcast avec une note 5 étoiles ou un gentil commentaire sur Apple Podcasts, ça m'aide énormément à faire grandir la communauté. Partagez-le à au moins 2 personnes autour de vous et inscrivez-vous à la newsletter, je vous enverrai le prochain épisode par email. Vous pouvez vous rendre sur le blog www.communautaireteo20.com pour retrouver les notes de l'épisode. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous.